Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Michel Moussemediaou. Il est journaliste, il est éditeur des Médias Plus Magazine. Bonjour Michel Moussemediaou.
Bonjour, bonjour cher Mathieu, bonjour.
Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central. Bonjour Madame Annie Massengou.
Bonjour Monsieur Gou.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy, bonjour tout le monde et merci de l'invitation.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi en France. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Michel Moussemediaou. Il est journaliste, il est éditeur des Médias Plus Magazine. Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, est en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Au menu de cette émission, la problématique de l'audit externe du fichier électoral de la CENI, l'annonce de l'échec des forces de l'EAC et de l'arrivée prochaine des troupes de la SADC, la dépendance de la RDC vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne les produits de première nécessité. Mais nous allons commencer par émettre un petit commentaire au sujet de la persistance des tueries dans la province de l'Ituri où plus de 500 personnes ont trouvé la mort en 2 mois. En effet, plus d'un million de déplacés sont affectés depuis 2 mois par les récentes attaques des groupes armés qui ont coûté la vie à plus de 500 civils dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri, a rapporté mardi 16 mai le chef des bureaux de la MONUSCO en Ituri, Marc Carnassoro. Il a fait cette communication au cours d'un café de presse qui a réuni 40 journalistes de Bounia. Le chef des bureaux de la MONUSCO, qui est revenu d'une mission dans le sud de Dirumu, a exposé sur la situation sécuritaire globale de la province. Il a évoqué aussi l'apport de la MONUSCO pour réduire l'escalade des violences dans la province, notamment dans la région de Tchabi, Boga, où sont présents les rebelles des EDF. Marc Carnassoro indique que 530 personnes ont été tuées entre décembre 2022 et février 2023. Plus d'un million d'autres déplacés sont concentrés autour des différentes bases de la MONUSCO. Madame Annie Massengou, nous allons commencer avec vous. Plus de 500 tués en 2 mois, et cela dans une seule province. Qu'est-ce que ces chiffres macabres vous inspirent, Madame Annie Massengou?
Les chiffres de 500, c'est pas seulement aujourd'hui qu'on parle des massacres à l'est de la RDC. C'est vraiment déplorable de voir que la situation continue jusqu'à ces jours et personne n'en fait cas sur le plan international et au pays. On ne voit pas comment les gouvernements s'activent pour qu'il y ait la sécurité de l'autre côté. C'est lamentable. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, en tout cas.
Merci Michel Moussemé Diaoué. Des mesures ont été prises pour endiguer cette insécurité, notamment l'état des sièges, les opérations conjointes FRDC-UPDF, mais on voit bien que ces mesures ont montré, n'est-ce pas, leurs limites, car n'ayant pas suffi pour mettre fin à cette insécurité, on a même tenté d'utiliser une démarche politique avec le processus de Nairobi, mais sans résultat palpable sur le terrain. Et à votre avis, pourquoi toutes ces tentatives n'ont pas produit des résultats escomptés?
Oui, je déplore la mort de tant de personnes en un laps de temps. C'est quand même des personnes humaines, c'est pas des animaux qui meurent. Par moments, je crois qu'on a aussi pitié même des animaux. Et il faut, à mon avis, aller jusqu'à la racine du problème, essayer de comprendre ce qui se passe réellement. On ne peut pas, pendant 20-25 ans, assister à des morts sans fin, à des conflits sans fin, entre des communautés qui ont vécu ensemble, en intelligence. Il doit y avoir un problème de fond, et c'est ce problème de fond qu'il faut essayer de comprendre, d'étudier, et y donner des solutions. Tant qu'on ne l'a pas encore fait, je crois que la guerre va continuer, et on peut amener toutes les armées du monde, je crois qu'on mettra pas fin à cette tuerie.
Merci Louis Magloire Kemayou. Chaque fois quand on analyse la situation sécuritaire dans ces pays, ce terme est souvent utilisé, hein, déficit de l'autorité de l'État. Et j'ai toujours posé cette question, qu'est-ce qui peut expliquer que depuis plus de 30 ans, les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays, comme on se rappelle à l'époque du maréchal Mobutu, où partout où vous alliez sur le territoire congolais, la présence de l'État se faisait sentir. Les gens ne pouvaient pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'ils respectaient et craignaient l'État. Et à votre avis, quels sont les pesanteurs qui peuvent être devant ces différents gouvernements pour ne pas les permettre, n'est-ce pas, de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays?
Je pense qu'il y a deux lectures à avoir par rapport à cette situation. La première, c'est que quand on a la paix, on ne peut pas mesurer à quel point elle est précieuse et à quel point il est important qu'elle soit préservée, quelles que soient les circonstances. Or, pour l'alternance en République démocratique du Congo, dans l'ancien Zaïre, beaucoup de choses ont été bradées et parmi celles-ci, il y a la question de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Non seulement ça a été le prix à payer pour faire partir Mobutu, puisqu'il a fallu nouer des alliances avec des voisins, avec des forces que je peux considérer comme des mercenaires et des milices, qui sont venus aider à chasser le président Mobutu qui était là. Et une fois qu'il est parti, les vraies questions n'ont pas été posées pour savoir comment est-ce qu'on restaure l'ordre, la discipline et la paix dans ces territoires qui avaient été conquis par ceux qui voulaient libérer le pays de celui qu'ils considéraient comme un tyran et qui ont plongé celui-ci dans une situation d'insécurité qui devient durable avec le temps. Et donc, pour moi, non seulement il faut répondre à cette question sur le plan politique, mais il faut également y répondre sur le plan social. Parce que jusqu'à présent, les réponses qui ont été données ont été soit trop militaires, soit trop politiques, mais jamais suffisamment sociales et économiques pour répondre également aux détresses des populations qui vivent dans ces territoires-là. Donc, pour moi, il faudrait que non seulement l'ONU, mais également le gouvernement congolais et ses voisins trouve des solutions qui feront en sorte que les personnes qui vivent sur les territoires de l'Ituri n'aient pas l'impression d'être des demi-citoyens, n'aient pas l'impression d'être abandonnées par le gouvernement central.
Merci Madame Annie Massengou. Comme l'a dit Louis Magloire Kemayou, il faut une réponse holistique au-delà, n'est-ce pas, des aspects politiques. Il faut solutionner les problèmes sur le plan social. C'est quoi votre réaction?
Justement, je suis de même avis, mais il faut aussi combattre l'impunité. C'est parce qu'il y a tellement l'impunité au pays, personne ne veut respecter les règles, les principes, personne ne veut suivre ou respecter la loi, et on se comporte en voyou, et on continue à tuer, on continue à pour des intérêts égoïstes. Parce que si vous regardez très bien, vous trouverez que derrière ces groupes armés, Hein, il y a des politiciens qui sont derrière. Et ces politiciens-là sont dans, il y en a qui sont dans les institutions en train de maintenir cette insécurité, juste parce que on veut avoir de l'espace, ne pas être contrôlé. Et parce que, à un moment donné, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on en avait parlé, et le président de l'Assemblée nationale, il renvoie toujours pour demander à ceux qui soutiennent l'insécurité à l'Est qu'ils puissent arrêter. Et le président de la République aussi en a fait cas pour demander à tous ceux qui sont au Parlement d'arrêter de soutenir l'insécurité à l'Est. Et si ce sont ceux qui sont dans les institutions qui veulent maintenir, qui continuent à vouloir maintenir cette insécurité, c'est vraiment très déplorable parce que on ne gouverne pas ou on ne gère pas ou on n'est pas au Parlement pour compte des animaux, on est pour compte de la population et c'est la population qui a donné mandat à ces gens-là qui sont au Parlement. Mais si, tout en étant là-bas, ils estiment que la population n'a pas d'importance pour eux, c'est vraiment très regrettable. Donc il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de la part de tout un chacun, savoir que nous n'avons qu'un seul État et c'est notre seule République. On ne peut pas composer avec les ennemis de la République, voisins soient-ils, pour venir détruire son propre pays. C'est un non-sens en tout cas, mon sens.
Merci Michel Moussebe Diawe. Au-delà des questions politiques, sociales, et vous ne pensez pas qu'il faille aussi mettre un accent sur la justice?
Oui, je pense qu'il faut effectivement laisser à la justice de faire son travail. Mais avant que la justice n'intervienne, je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs pour dire que il faut d'abord essayer de sonder, de voir quel est le problème à la base. Qu'est-ce qui fait que des gens qui ont vécu ensemble, qui s'en retrouvent en train de se couper les têtes aujourd'hui? Il y a sur le plan social, sur le plan économique, je pense qu'il n'y a aucun programme qui permet aux jeunes de se retrouver là où ils sont. Tout le monde rêve de faire la politique parce qu'on a estimé que la politique est devenue un raccourci pour s'enrichir. Tout le monde veut être député, tout le monde veut être fondateur d'un parti politique. On a oublié l'agriculture, on a oublié le commerce, on a oublié tout ceci. Moi, je pense que si on donne la possibilité aux jeunes de rester dans leur milieu et de travailler la terre, de faire le commerce, de circuler. Deuxièmement, il y a un problème d'infrastructure. Vous savez que les gens ne se fréquentent plus parce qu'il n'y a plus de route pour aller d'un point A et à un point B. Et quand les gens ne se côtoient pas, ils ne se connaissent pas. Quand les gens se côtoient, ils se découvrent. Ils trouvent finalement qu'ils ont beaucoup de choses en commun et qu'ensemble, ils peuvent développer leur milieu. Personne ne peut développer son milieu sans associer le voisin. Je parle des différents coins, des différents villages de notre pays. Il y a des coins où on produit, mais il y a des coins où on consomme. Il faut créer les conditions pour que les jeunes, essentiellement les jeunes, parce que c'est eux qui prennent les armes, il faut créer des conditions pour leur offrir une alternative aux armes. Il faut éloigner les jeunes des armes. Mais comment les éloigner des armes? C'est de leur procurer des moyens qui peuvent leur faciliter la vie sur le plan social, sur le plan de la locomotion, sur le plan des études, etc. Alors moi, je pense que les jeunes, à un moment donné, ils se disent, nous nous prenons en charge parce qu'ils voient qu'en face d'eux, les modèles, c'est des politiciens. Dès qu'il est élu, il quitte le village, il va à Kinshasa, il a des millions comme on nous l'apprend, et puis il ne revient que pour demander un deuxième mandat. Et pendant les 5 ans de mandat d'une législature dans notre pays, les villages se vident, les villages deviennent de plus en plus pauvres, et le seul salut, les jeunes se disent, le raccourci c'est de prendre une arme, c'est de m'imposer, c'est d'extorquer, c'est d'aller prendre des choses d'autrui, etc. Donc il faut aider les jeunes à s'auto-prendre en charge sur le plan économique et social.
Merci, merci. On prend une petite pause avec Rebé des Pongolov et on revient tout de suite après.
Oui, petit grand canal, kota polo koya kolinga epoti na kaina bwaka zoe na fulu na koma prisonniere bébé na sali condamné oya na kolele la yedi yedi okoko makoki manzela nyoso na lekao Kosela yo likambo ya monene paluka bipai bisoko bakakao na kotika mai ekauka na masama soki batuni na loba seko ya reveo apitie
C'était Rebe de Pongolov, de son vrai nom, Elfried Mpongolandou, une chanteuse congolaise née le 27 août 1956 à Boma et décédée le 15 janvier 1990 à Kinshasa. Elle a laissé à 33 ans une œuvre majeure qui a eu un écho dans toute l'Afrique et continue d'émerveiller les mélomanes du monde entier. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. L'audit externe du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a débuté lundi 15 mai à Kinshasa. Cette opération a débuté par une réunion d'échange entre les membres de la CENI et l'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai. Selon une dépêche de la CENI, seuls 5 experts sélectionnés sont à pied d'œuvre. Cette équipe mixte a jusqu'à ce samedi 20 mai pour exécuter cette tâche. D'après la dépêche de la CENI, l'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est, d'une part, d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives. Oui, Magloire Kemayou, vous êtes journaliste camerounais, écrivain et président du Club de l'information africaine. Pourquoi avez-vous souhaité nous parler de ces sujets relatifs à l'audit externe du fichier électoral?
J'ai choisi le sujet du fichier et de son audit parce que l'élection, et en l'occurrence l'élection présidentielle, représente ces dernières années l'une des causes les plus conflictuelles de déstabilisation de nos pays. Que l'on soit en RDC, que l'on soit au Mali, en République centrafricaine ou même en Côte d'Ivoire, pour remonter un peu plus loin, l'élection présidentielle représente un moment de tension très forte dans nos différents pays. Et je crois que cette année, la conjoncture des événements fait qu'il y a de fortes raisons de penser que cette élection, et notamment le fichier électoral tel qu'il a été constitué, ne sont pas des éléments qui vont apporter de la sérénité dans l'organisation des élections. Et je crois que le fait de commencer l'audit aussi tard et de se donner peu de temps pour rectifier les éventuels manquements qu'il y aurait dans ce, enfin, que révélerait cet audit, constitue pour moi des situations qu'il faut craindre par rapport à un éventuel report ou à une organisation bâclée de l'élection et présidentielle et de toutes les élections qui suivront, c'est-à-dire les provinciales et les sénatoriales. Donc pour moi, c'est un moment très fort dans la vie de l'État, dans un contexte de sécurité plus que délétère dans certaines provinces du pays. Et je crois que si les politiciens ne prennent pas suffisamment la mesure de cet événement et ne participent pas à cette espèce de prise de conscience qui consiste à dire qu'après l'élection, le pays devra continuer de vivre normalement et que pendant les élections, la paix doit continuer d'être le mot d'ordre pour tout le monde, je crains malheureusement que cela débouche sur une situation que l'on a déjà connue ailleurs, c'est-à-dire une crise post-électorale. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi le thème.
L'enjeu de cette démarche, c'est d'obtenir la crédibilité du processus électoral en cours. Or, certains acteurs politiques de l'opposition et des acteurs sociaux tels que l'Église catholique exigent que l'audit de ces fichiers soit confié à une instance internationalement reconnue et non à cette équipe mixte d'experts nationaux et internationaux qui ont été sélectionnés par la CENI. Louis Magloire Kemayou, avec cette méfiance exprimée déjà par ces acteurs, Quelle pourrait être la valeur des conclusions qui seront, n'est-ce pas, issues de cet audit, parce que tout est fonction de la confiance des parties prenantes?
Oui, il y aura forcément une situation mitigée, c'est-à-dire que la crise de confiance, elle existe, elle va être consommée à l'issue de cet audit, mais je crois que l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que nos politiciens, nos populations restent maîtres de leur destin par rapport à la gestion du pays. Aller chercher une caution à l'extérieur, certes, ça peut être valorisant si l'on se dit que on est mieux perçu par les autres que par les siens, mais la vraie fonction qui permettra à l'opération d'enrôlement, à l'opération d'audit et à l'élection elle-même d'avoir une valeur à l'échelle internationale, c'est d'abord la participation et la confiance de l'ensemble de la population et des acteurs nationaux. C'est pourquoi je crains que malheureusement, malgré toutes les dispositions qui sont prises, le fait qu'il n'y ait pas eu un consensus entre les différentes parties prenantes débouche sur une crise de confiance qui pourra malheureusement conduire à une crise post-électorale.
Merci, Monsieur Michel Moussemé Diaw. Vous êtes journaliste et éditeur des médias plus magazines. Selon la CENI, cet audit vise notamment à dégager des mesures correctives parce qu'il faudra améliorer sa qualité et son intégrité. Et nous sommes à 7 mois de l'élection de décembre. Or, beaucoup d'opérations préélectorales restent à accomplir. La CENI pourrait-elle avoir le temps d'apporter des correctifs dans ces fichiers sans que cela n'impacte son calendrier?
Vous savez, Guy Maquet, nous allons vers notre quatrième cycle électoral, si je ne me trompe pas. Chacune de ces élections a été toujours précédée par des suspicions de part et d'autre, l'opposition essentiellement. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de politiciens qui estiment que les résultats sont connus à l'avance. Certains parlent des signes comme, par exemple, depuis la publication du calendrier électoral, je crois que c'est au mois de novembre 2022, il y a eu des prestations contradictoires entre le président de la CENI, Denis Kadima, qui a dit qu'il n'a pas les moyens, que la dernière fois qu'il a encaissé de l'argent pour les opérations électorales, ça faisait des mois et des mois. Et puis le ministre des Finances, Nicolas Cazabi, est venu contredire le président de la CENI. C'était déjà le premier couac qui a fait penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Deuxièmement, à propos de l'audit du fichier électoral, moi je souhaite qu'un jour, que les citoyens congolais, les citoyens africains essentiellement, mais je préfère que ce soit les citoyens congolais, qu'il y ait des gens qui puissent auditer le fichier électoral sur tous les plans, que ce soit les machines qu'on a utilisées, que ce soit le processus lui-même, que ce soit les doublons qu'on doit écarter. Si un jour on arrive à ce que les citoyens congolais ou des institutions congolaises, la société civile congolaise ou à tout le moins la société civile africaine est capable d'auditer le fichier électoral de la RDC et d'autres pays, moi je dirais bravo. Mais il faut montrer des signes de confiance entre les partenaires. L'opposition et ceux qui veulent avoir un autre mandat, je parle du pouvoir actuel, je pense qu'il faut se faire confiance, se dire que la bataille que nous menons, c'est entre nous les politiciens, mais la plus grosse bataille, c'est pour aider le pays à avancer. Parce que si nous avons toujours des résultats contestés par les uns et les autres, ben je dis à aucun résultat qui est accepté par tout le monde, mais au moins que tout le monde se dise « enfin, cette élection s'est très très bien passée », vous verrez que ça va influer sur tout le reste des activités du pays et le pays va être un peu libéré parce que nous avons une pesanteur, on a des boulets rouges à nos pieds. Le pays ne démarre pas. Le pays ne démarre pas à cause des politiciens. Je pense que si on ne veut pas qu'une organisation internationale audite le fichier, alors qu'on montre à ces organisations, à cette organisation nationale, que localement, ici dans le pays, nous avons des cerveaux, nous avons des gens qui sont capables d'auditer ce fichier de manière neutre pour qu'il n'y ait pas de protestation. Moi, je trouve que si les experts privés, il n'y a aucun, moi, ma connaissance qui sort d'une organisation internationale, s'ils réussissent, tant mieux. Mais s'ils échouent, alors c'est tout le pays, c'est tous les processus qui aura échoué. Voilà.
Merci Madame Anima Sengou, vous êtes membre de la société civile du Congo central. Qu'est-ce faudrait-il à la CENI pour qu'elle arrive à relever les défis de la crédibilisation du processus électoral en cours?
La CENI doit jouer son rôle en tant que l'église au milieu du village, faire son travail, ne pas se laisser appartenir à un groupe ou à un autre. C'est quand la CENI oublie sa place et voudrait jouer ou voudrait appuyer les résultats en fonction des intérêts des uns et des autres, que les choses capotent. Si les politiciens, entre eux-mêmes, n'ont pas, voire même la population, maintenant, là, elle est un peu méfiante par rapport à la CENI, parce que la CENI, trop souvent, a déçu et lui vole son vote. Il faudrait que la CENI, les acteurs qui dirigent la CENI, sachent que lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas pour un parti politique ou un individu quelconque, ils sont là pour la nation. Et tout ce qu'ils font détermine la destinée de la nation. Et donc on ne peut pas hypothéquer l'avenir de tout un pays à cause des intérêts égoïstes, ou soit parce qu'on a reçu des paquets, parce qu'il faut reconnaître que la corruption dans notre pays, quand même, elle bat son plein. Il faudrait que nous puissions nous libérer de ces comportements et rester congolais, agir dans l'intérêt de notre nation pour sauver la République. Sinon, nous sommes en train de l'enterrer nous-mêmes. Et qu'est-ce qui va nous rester?
Oui, madame, vous avez suivi Monsieur Moussem Diaoué qui a pensé que même si nous avons des experts nationaux, mais s'ils peuvent faire le travail de manière indépendante, il n'y a pas de problème. Mais que dites-vous de cette opinion qui estime que le fait d'avoir des experts, même s'ils sont nationaux, mais le fait que ces experts sont sélectionnés et pris en charge par la CENI, il sera difficile que ces experts puissent, n'est-ce pas, faire à la fin de ce travail d'audit, qu'ils puissent avoir une appréciation objective, n'est-ce pas, de la chose, parce que ils doivent aller dans le sens des intérêts de la CENI.
Moi, je pense qu'il faudrait une synergie entre les experts nationaux et les experts internationaux. Ce mélange-là pourrait nous aider à aller de l'avant et pourrait nous aider également à ne pas avoir des experts qui pourront se laisser berner par les agents de la CENI. Et je crois que de cette manière-là, les choses iront bien. Et puis, dans la sélection des experts, il faut qu'on puisse tenir compte aussi de la moralité. On ne va pas y aller par complaisance, parce que, bon, on est de telle obédience ou de telle autre obédience, et on prend les experts en fonction de ça. Il faut prendre les experts qui ont une moralité soutenue et qui pourront venir faire le travail en âme et conscience.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Et comme vous le savez, les danseurs et chorégraphes congolais Lambert Moké, dit Lambio Lambio, est décédé dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 mai à l'hôpital du Cinquantenaire des suites d'une crise cardiaque, selon l'information confirmée par le président de l'ASBL, Artif Andanger. Lambio Lambio a travaillé avec quelques grandes célébrités de la musique congolaise moderne, notamment Franco Luambo Makiadi, Abeti Masikini, Mbili Abel, Kofi Olomide et Papa Wemba. Pour lui rendre hommage, on va écouter Chérie Maria de Papa Wemba. C'était à l'époque où Lambio Lambio travaillait dans l'orchestre Viva La Musica et on revient juste après.
Lelana komi pasan e banaya bona zangi de mosolo popo sani le temps passé papa si royo mai na mona bonaya bonwe te la mer si terre patae panayo mama ona zangile mosolo obo sani le temps passé papa ti hoyo ngai na mona ti ponayo oyo wepe ti la dernière pitera papa poti payo batindi nga pauvre malheureux mobola na janga era pani mi amo na zali na yango ona koki kopesa na ya akala bakakutanga na yo lisusu na nzela akosabi na nga na danger
dans cette émission Regard sous la tutelle de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la tutelle de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sous la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la persistance des tueries des civils dans l'Ituri. Nous avons également analysé la problématique de l'audit externe du fichier électoral de la CENI. Participe à cette émission, Michel Moussemedia, oui, il est journaliste et il est éditeur des Média Plus Magazine. Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, est en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Les troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC venues en RDC pour soutenir les FRDC ont échoué, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula samedi 13 mai à Kinshasa. Il a par ailleurs annoncé que celles de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC arriveront en juin prochain. Au cours d'une conférence de presse, Christophe Lutundula précise que les forces de la SADC viennent pour renforcer les forces armées de la RDC à combattre le M23. Pour rappel, la communauté de développement de l'Afrique australe avait décidé lundi 8 mai d'envoyer des forces pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Michel Moussemediawe, vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Voilà Guy Maté, première chose, je suis excédé de la présence de plusieurs armées sur notre territoire. Excédé parce que je pars du principe que personne ne viendra résoudre nos problèmes. c'est nous-mêmes qui allons résoudre nos problèmes. Il n'y a pas de militaires étrangers qui viendront mourir pour nous, pour que ce pays redémarre. Nous sommes un grand pays, nous avons connu des hauts faits d'armes de nos armées. Tous les noms des avenues que vous trouvez dans toutes les grandes villes de notre pays, Mahenge, c'est pas un village congolais, Sayo, c'est pas congolais, Khartoum, c'est pas congolais, Birmanie, c'est pas congolais, Tabora, c'est pas congolais, c'est des villes et des villages, des pays étrangers que la force publique congolaise de l'époque est allée libérer pour qui combattait évidemment aux côtés des alliés contre les Allemands. Alors moi je me dis, après ça, il y a eu d'autres hauts faits d'armes. Nous avons combattu la rébellion, Moléliste, ou les Simba, vers les années 64, moi j'ai connu ça. Nous avons combattu Jean Scram à Bukavu, il n'y avait pas une armée étrangère. Nous avons combattu, sur d'autres fronts, avec les militaires congolais. Comment ça se fait que tout d'un coup, et ça c'est depuis 1994-96, que pour chasser Mobutu, on nous amène même des bergers qui couraient derrière les vaches, qui ont mis l'uniforme, on nous a amené 5-6 armées étrangères pour chasser Mobutu, et tout commence par là. Et depuis lors, on a l'impression qu'on n'a plus d'armée, que le mixage, rappelez-moi, il y a des termes comme le mixage, comme l'intégration, comme finalement, c'était pour tuer l'armée congolaise. Alors, je reviens à l'armée de East African Community. Le président de la République a estimé qu'ils ne font pas leur travail. Le ministre des Affaires étrangères l'a répété. Et moi, je me disais dès le départ, les pays de East African Community, vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez le Kenya, le Soudan du Sud, il y a une trop proche proximité, non seulement géographique, mais sociologique, linguistique. Vous amenez l'armée du Burundi à Masisi, mais en Masisi, on parle une langue qui est proche de la langue qu'on parle au Burundi. Vous avez des compositions ethniques qu'on retrouve, parce que là, parlons des Hutus, des Tutsis, je ne parle pas des Hunde, je ne parle pas des autres. Nous avons exactement la même composition ethnique au Burundi. Ce qui fait qu'une armée composée des mêmes ethnies que celles qui se retrouvent chez nous, il va être difficile que cette armée étrangère tire sur leurs frères, entre guillemets. De la même manière, en Ouganda, prenez Bunagana, prenez tous les environs de l'Ouganda, il y a une telle circulation des hommes, des idées, sur le plan culturel, etc., que ça va être difficile. Le Kenya même ment, parce que l'est de la RDC est tourné vers le Kenya, qui est la puissance des environs. Même chose pour la Tanzanie. Alors, moi, j'estime que rien que pour ça, il fallait pas attendre grand-chose de cette armée, qui sociologiquement, culturellement, est très très proche des populations de l'est du pays. Alors, faut-il la remplacer par une autre armée qui vient de loin, de la SADC? Je me dis, peut-être oui, parce qu'ils sont très loin du théâtre des opérations, très loin sur le plan sociologique et culturel. Que donc, ils n'auront pas d'état d'âme s'ils doivent passer à l'offensive, s'ils doivent tirer, s'ils doivent combattre le M23, etc. Est-ce que c'est ça la solution? Moi, je trouve que la solution ultime, c'est vrai, pour le moment, nous sommes en difficulté, on est en phase de recomposition, de la reconstruction de l'armée congolaise, et que, on appelle le voisin pour nous venir au secours. Mais je pense qu'au même moment qu'on appelle les voisins pour nous venir au secours, il faut rebâtir une armée républicaine, digne de la force publique qui a délivré beaucoup de pays africains, de l'emprise allemande. Il faut qu'on reconstruise notre armée, qui a montré ses hauts faits d'armes au Tchad, ça beaucoup de gens ont oublié, c'est l'armée zaïroise, donc congolaise, qui a chassé Kadhafi du Tchad. Pourquoi diantre aujourd'hui, on n'est pas capable de se défendre? Je comprends que notre armée a été infiltrée avec le système de brassage et consorts, que ça nous serve de leçon, que demain, après-demain, nous soyons capables de nous défendre de nous-mêmes.
Merci Madame Annie Massengou. Lorsque le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula déclare officiellement que les troupes de l'EAC venues en RDC pour soutenir les FARDC ont échoué, en termes diplomatiques, ce n'est pas une façon de demander à l'EAC de tirer les conséquences de cet échec en retirant ses forces du territoire congolais?
Évidemment, c'est très clair. Lorsqu'on on recourt à des troupes étrangères, c'est parce qu'on espère qu'étant peut-être qu'on se sent faible, on espère que ces troupes viendront pour solutionner les problèmes. Mais quand ces troupes sont sur votre territoire et vous continuez à compter les morts, alors que ces troupes sont là pour essayer d'intervenir et d'empêcher à ce qu'il y ait justement des décès. Alors, si la situation perdure, c'est que ces troupes-là ne sont pas à la hauteur. Donc, il faudrait tirer la conséquence qu'il faut libérer les territoires parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Alors là, il se pose une question. Qu'est-ce que fait cette troupe de l'EAC sur les territoires congolais alors que les massacres continuent jusqu'à aujourd'hui? Quel était l'objectif ou le but poursuivi en l'amenant ici en RDC? Moi, je pense que nous en avons assez vécu, les sang a suffisamment coulé, et que maintenant, il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. C'est comme l'a dit mon prédécesseur,
Michel Moussemé.
Oui, monsieur Michel, les troupes étrangères ne nous aident pas. Au contraire, la lecture que nous faisons, c'est que ces troupes-là nous enfoncent. Et ce qui compte beaucoup plus, c'est peut-être c'est créer une voie pour exploiter les minerais, parce que la République démocratique du Congo est richement bénie par Dieu. Et je sais que tout le monde entier convoite la République démocratique du Congo, où partout où vous passez, vous trouverez des minerais. Alors, on profite, on se dit non, nous devons aller, on envoie des troupes. C'est pratiquement qu'ils ne font rien. Et derrière leur présence, nous pouvons nous poser des questions. Qu'elles font-elles sur les territoires congolais parce que les massacres ne s'arrêtent. Et donc, moi j'estime que c'est monsieur le ministre des Affaires étrangères et à féliciter, c'est avoir du courage de dire ouvertement à son partenaire que tes services ne me servent à rien. Alors, le contrat sur base duquel tu es venu chez moi ne peut pas être exécuté parce que tu n'es pas rentable. Voilà, en quelque sorte, c'est une façon, une stratégie. Il ne l'a pas dit de façon inappropriée. Il a utilisé des termes qui conviennent. C'est à l'autre partie de comprendre qu'on ne veut pas d'elle ici.
Merci. Merci, Louis Magloire Temayou. Christophe Letundula a précisé au cours de cette conférence de presse que les forces de la SADC viennent pour renforcer les forces armées de la RDC à combattre le M23. Et au cas où ces forces se comportent comme celles de l'EAC, c'est-à-dire si elles refusent d'utiliser la coercition face au M23 qui refuserait, n'est-ce pas, de respecter leurs engagements, quels seraient les scénarios possibles? Ça pourrait être quoi les plans B du gouvernement congolais?
Du plan A au plan Z, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est que l'armée congolaise redevienne une armée nationale et que cette armée nationale produise des résultats et des résultats positifs. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les risques que ce que nous avons eu avec la précédente force se produisent avec la force qui va la remplacer, soit à peu près les mêmes résultats, ce risque-là, il est très élevé. Parce que pour moi, quand on fait venir une force étrangère, même s'il s'agit de voisins et de voisins immédiats, il faut un cahier des charges très précis qui permette de déterminer le périmètre dans lequel interviennent les uns et les autres et qui permettent de déterminer si oui ou non la mission qui a été confiée aux uns et aux autres a été bien remplie. Or, s'ils interviennent en ayant l'impression de se substituer à l'armée congolaise, je crois qu'ils n'arriveront jamais à atteindre les objectifs, si c'est cela l'objectif fixé. La deuxième chose, c'est que quand les armées étrangères arrivent, il faut qu'elles aient une mission suffisamment claire. Parce que quand on parle de maintien de la paix dans un pays qui est en guerre, c'est contradictoire. On ne peut pas maintenir la paix là où elle n'existe pas. Il faut d'abord que la paix soit imposée aux différents belligérants, et une fois qu'elle a été imposée, on peut trouver des mécanismes pour la maintenir. Mais le maintien de la paix n'est pas quelque chose de spontané. Or, aujourd'hui, en RDC, c'est qu'il s'agisse de la MONUSCO, qu'il s'agisse des forces africaines, des pays voisins, l'on a l'impression qu'on peut mettre la charrue avant les bœufs, commencer par le maintien de la paix et après instaurer la paix. Or, pour moi, c'est une grosse erreur. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités de l'armée congolaise. C'est une force armée nationale qui a des valeurs patriotiques suffisamment ancrées pour intervenir sans avoir de parti pris. Et qui intervient sans qu'il y ait à l'intérieur, en son sein, des officiers véreux, des officiers qui ont une allégeance double, qui sont une espèce de cinquième colonne à l'intérieur de l'armée. Donc pour moi, tous ces problèmes-là doivent être réglés avant même de faire appel aux forces étrangères qui ne seront jamais rien d'autre que des forces d'appoint à la force congolaise qui a besoin aujourd'hui d'un renforcement de capacité à la fois sur le plan de la formation et sur le plan de la capacité d'action et des moyens militaires, des moyens matériels d'intervention sur le terrain.
Merci, on prend une petite pause avec Hit the World de Michael Jackson, on revient juste après.
There's a place in your heart, and I know that it is love. This place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world.
C'était Hit the Road, un classique composé par Michael Jackson. Michael Jackson nous a quittés il y a de cela quelques années, paix à son âme. On revient à l'actualité de la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Michel Moussé-Mediaou, il est journaliste et l'éditeur des médias plus magazine. Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Il est écrivain et président du club de l'information africaine. L'interdiction de l'importation du maïs et de l'Afrique du Sud dépassée par la Zambie a été levée. C'est l'un des résultats de la mission gouvernementale effectuée début mai en Afrique du Sud. Vital Kamerhe, chef de cette délégation gouvernementale, l'a dit lundi dernier lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue des médias, Patrick Muyaya, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a ajouté que d'autres voies d'approvisionnement ont été trouvées. Vital Kamerhe ajoute que le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour résoudre les problèmes de manque de farine de maïs dans les Gakatanga et dans les Kasai. Madame Annie Massengou, vous avez souhaité nous parler de la problématique de la dépendance de la RDC vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne les produits de première nécessité, cas de la carence de maïs au Katanga et au Kasai. On vous écoute.
Oui, merci. Ces problèmes de la dépendance de la RDC vers les pays voisins en ce qui concerne les produits de première nécessité, c'est un problème préoccupant parce que, en fait, le Congo étant un grand pays, les autorités ne pouvaient pas se laisser rattraper par les événements en ce sens que on a laissé d'abord pendant longtemps la population, on ne l'a pas habituée au travail dans l'agriculture, et c'est comme ça que, et même dans la transformation de beaucoup d'autres produits, qui pourrait être nécessaire à la vie des Congolais, nous nous sommes habitués à aller chercher ce que font les voisins. Nous sommes juste formés comme des consommateurs et non des producteurs. Et ça, c'est une situation véritablement inquiétante parce que ça nous rend esclaves des autres. Alors que nous avons un pays suffisamment grand, là où nous pouvons à nous organiser pour produire de nous-mêmes. Nous avons suffisamment de l'espace pour cultiver du maïs, mais nous préférons aller chercher ce que font les autres pour amener chez nous. Et tout cela est encouragé par notre politique qui encourage les opérateurs économiques à aller négocier des marchés et ramener ici chez nous sans qu'il y ait contrôle suffisant de l'État congolais. Et c'est ainsi que nous avons remarqué qu'à un moment donné, la Zambie nous a bloqué et elle n'a pas voulu que le maïs entre au Katanga ou en RDC. Et comme vous le savez très bien, le Kasai subit aussi la fourniture qui vient du Katanga. C'est-à-dire, on achète en Zambie, ça passe par le Katanga, ça arrive au Kasai. Ça va au Lualaba. Et toutes ces trois provinces-là sont privées de cette denrée qui est si nécessaire parce que la consommation dans ces trois provinces est axée particulièrement sur du maïs. C'est en ce moment-là que ça réveille le gouvernement qui statue là-dessus. On s'est réunis en conseil des ministres, c'est en ce moment-là seulement. Donc, on ne précède pas les événements. Ça, c'est vraiment...
Ah là là, apparemment, il est parti, Madame Annie Massengo. La réalisation va essayer de la rappeler. Michel Moussemediaou, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment, lui aussi est coupé aussi. Louis Magloire Kemayou, plus de 80 millions de consommateurs... Certaines puissances industrielles souhaiteraient voir ces vastes marchés que la RDC rester dépendant, n'est-ce pas, parce que c'est un marché qui peut fonctionner, beaucoup d'entreprises contribuent, n'est-ce pas, à l'épanouissement des économies de ces pays. Est-il facile pour nos pays de sortir de ce système, Luma Gloire Kemayou?
Je pense que nous sommes entrés dans un cycle de spéculation lié au fait que l'économie mondiale, après les accords de Bretton Woods, est tombée dans une espèce de libéralisme puis de néolibéralisme qui fait qu'à chaque fois qu'il est possible de gagner ne serait-ce que 1% de bénéfices, tout le monde s'y met, y compris au détriment du bon sens. Et la situation actuelle que vivent et la RDC et ses voisins est liée à cela. Parce que si l'on devait mettre en avant l'impératif de l'intégration africaine et l'impératif également lié au fait que dans chaque pays, on doit produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit, la politique serait différente. Regardez au niveau des grands pays comme les États-Unis ou bien l'Union européenne, la politique la plus importante, c'est pas celle qui permet de vendre des armes, c'est celle qui permet d'avoir une politique agricole commune entre les différents pays, entre les différents États. Et dans le cadre de la RDC, il est important qu'il y ait cette politique afin qu'avec les voisins et au sein des différentes provinces qui constituent le pays, on comprenne que l'on est maître de son destin. Or, malheureusement, ce qui préside aujourd'hui, ce sont les intérêts particuliers des importateurs de produits. Donc, y compris quand cela peut leur permettre de gagner de l'argent sur place en produisant, s'ils en gagnent plus en important, ils mettront le curseur plutôt sur l'importation que sur la production locale. Or, ce sont des devises qui sortent. C'est de l'argent qui sort pour acheter des produits, pour dépenser dans des choses qui n'auraient jamais dû représenter un tel poids sur les dépenses nationales, alors que dans le même temps, il y a les besoins de financement de l'armée, il y a les besoins de financement de la sécurité nationale, il y a le besoin de financement de l'éducation et de la santé, il y a tous les impératifs socio-économiques qui ne sont pas remplis. Donc pour moi aujourd'hui, il s'agit de dire aux différents pays qu'ils doivent faire l'effort de produire ce qu'ils consomment et de consommer ce qu'ils produisent, et dès lors qu'il est possible d'avoir une politique agricole commune, de s'arranger pour que cela profite aux uns et aux autres, parce que le monde actuel, tel qu'il est fait, est une jungle dans laquelle il n'y a pas de place pour les aventures individuelles. Donc les États doivent se constituer en groupe pour arriver à résister à la pression et des États les plus puissants et des multinationales les plus puissantes. Pour moi, c'est la seule voie de sortie par rapport à ce piège qui est tendu sur le plan de l'alimentation et de l'agriculture.
Merci. Michel Moussemedia, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, Guy Maté, je suis là.
Que répondez-vous à ceux qui sont convaincus que cette situation de dépendance économique est voulue et entretenue parce que la RDC est considérée par, n'est-ce pas, beaucoup des puissances industrielles comme un vaste marché des consommateurs. Et il faut donc la maintenir dans cette situation parce que ça enrichit les économies des pays étrangers.
Oui, c'est une évidence que le fait d'importer tout ce que nous mangeons enrichit quelqu'un quelque part. Nous enrichissons les agriculteurs des pays de provenance de ces vivres, mais vous savez, Guy Maté, je ne suis pas du genre à rejeter la faute aux voisins. Je pense qu'il nous appartient à nous de nous dire, écoutez, désormais produisons ce que nous consommons. J'ai entendu Monsieur Kemaye le dire. La faute de la RDC, de l'Afrique de manière générale, c'est que nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Quel est cet étranger qui a interdit qu'on aille chercher du riz à Kindu, dans le Sankuru, qu'on aille chercher du maïs qui pourrit à Nyunzu, dans le Tanganyika, qu'on aille pêcher les poissons qui meurent de vieillesse dans le lac Tanganyika, qu'on organise des structures, un maillage de transport, infrastructure de transport, pour que les centres de production soient reliés aux centres de consommation. Moi, je pense qu'il n'y a aucun étranger qui nous a interdit de le faire. Pour revenir à la mission du gouvernement pour aller chercher le maïs pour le Grand Katanga et le Kasaï, j'espère qu'on n'en a pas parlé parce qu'à un moment donné, j'ai été coupé. Moi, j'estime que c'est vrai. Pour l'instant, quand quelqu'un a faim, il faut le nourrir, il faut le secourir, mais que ce soit une leçon pour une fois pour toutes. On ne peut pas aller chercher du maïs en Zambie, qui est 5-10 fois plus petit que le Grand Katanga. On ne peut pas aller chercher le maïs en Afrique du Sud, qui est moitié désertique, alors que nous avons des fleuves, nous avons le fleuve Congo, on a des affluents, on a des espaces, au total 80 millions des hectares de terres arables. Qui nous interdit de cultiver? Pourquoi à un moment donné nous étions le grenier de l'Afrique? Et pourquoi à un moment donné nous sommes là à commander la nourriture à travers des petits pays qui nous entourent? Pourquoi? Alors moi j'estime que c'est vrai, pour l'instant il faut nourrir ceux qui ont faim, mais que ça constitue pour nous une leçon pour le futur, parce que quand on ne sait pas nourrir son peuple, je crois qu'on n'est pas indépendant.
Et donc, tout est lié à la volonté politique.
Tout est lié à la volonté politique. Moi, je me dis que, vous savez, moi, j'ai étudié à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, j'ai connu le gouverneur Mandungu. Le Katanga était connu comme une province minière. Quand Mandungu est venu, il a transformé le Katanga en province mixte, minière et agricole. Tout le Haut-Katanga, il n'y a pas de mines, c'est maintenant qu'on commence à découvrir. C'est vrai, il y a Manon, etc. Mais il a fait de tout le Haut-Katanga une province agricole. À un moment donné, il y avait l'autosuffisance alimentaire. Même le restaurant universitaire qui avait été fermé depuis des années a bénéficié de cet emblée agricole. Et le qui, vous n'en parlons pas. Même en pleine guerre, quand vous allez à Goma, au marché de Goma, c'est plein de vivres produits localement. Alors pourquoi on ne le fait pas ça ailleurs? Pourquoi au Kasaï, qui a le même climat, la même configuration géographique que l'Afrique du Sud, que la Zambie, et même le Haut-Katanga, pourquoi on ne cultive pas le maïs? Pourquoi? Voilà les questions que je me pose.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Michel Moussemediawe, Madame Annie Massengou et Louis Magloire Kemayou. Malheureusement, on n'a pas pu retrouver Madame Annie Massengou dont la ligne était coupée. Merci aussi à Billy Landry Betou et à Jean-Noël Mokondo qui étaient à la technique avec la participation d'Hervé Voka et d'Edeps Vita à la réalisation Lèche Walassa. Et à la présentation Guy Maté, sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujangwe et d'Étienne Rougerie. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Nala Lipongi, des Jossar Nyoka Longo, d'Antaiko Langalanga. Et on se retrouve le samedi prochain.
Nalali pongi mama, mbongo iba somba kateye.